estrellas de los cielos, qué herida. Ellas son que relumbran. En ellas no hay firmeza, niña de mi corazón, ya me abasta la mija pasión.
Je m'appelle Eric Samak, donc je suis artiste plasticien, mais j'aime bien aujourd'hui me faire appeler le chasseur-cueilleur. Voilà. Et je vis dans les Hautes-Pyrénées, au milieu des bois. J'ai la chance d'avoir un territoire de 20 hectares sur lequel j'expérimente et je chasse aussi, et je pêche.
Tu peux nous raconter sur ta première expérience au lac de Vassivière, à l'île de Vassivière?
Bien sûr. Alors, en fait, pour moi, l'île de Vassivière, ça a commencé très très tôt. J'étais encore étudiant à l'école d'art de Cergy-Pontoise. Et j'ai eu la chance d'avoir une résidence sur l'île à l'époque où il n'y avait pas de centre d'art. C'était le symposium de sculpture en granit du Limousin. Et j'ai réalisé une œuvre qui est toujours sur l'île, donc c'est en 83, qui s'appelle Lieu d'écoute. Et c'est deux espèces de menhirs avec des haut-parleurs taillés dans le granit, les basses, les médiums, les aigus, et un point d'écoute. Voilà, et ça s'appelait Lieu d'écoute. Et dans le petit texte du catalogue du symposium, j'avais écrit « J'attends une vache, un grillon, trois petits points, je reviens ».
Alors, tu n'as pas seulement fait ce travail artistique sur l'île, mais tu as aussi trois autres œuvres, notamment les flûtes, lucioles.
Les graines de lumière. Ouais.
Les graines de lumière, ouais. Par rapport au vu que tu... Ouais. Et les rêves de Tijuca... avec l'arborisation et les...
Ouais.
Voilà.
Ouais. Donc ça, c'est beaucoup plus tard. Hein? C'est beaucoup plus tard. C'est la conception et l'invitation. À l'époque, c'était Guy Tortosa, le directeur du centre d'art. Donc il m'invite à réfléchir. J'étais en résidence, en quelque sorte, pendant une année. Je venais tous les mois, tous les mois et demi. Et j'ai donc réalisé en effet un projet qui me tient toujours à cœur et que j'adore bien sûr aujourd'hui, puisqu'il a 20 ans, c'était en 2003, donc Les Rêves de Tijuca, une plantation de 2500 arbres avec plus de 50 espèces différentes, plantées par 500 familles à peu près. Donc c'était vraiment comme un événement, un protocole. Il y avait une dimension participative et aujourd'hui elle a 20 ans, cette plantation. Donc c'est formidable d'aller voir ces arbres sous lesquels on passe maintenant. Ça fonctionnait avec les graines de lumière que je viens de terminer de restaurer, donc on peut découvrir maintenant à nouveau sur l'île. À l'époque, c'était à l'échelle de l'île entière. Voilà. Et donc ces graines de lumière scintillent à la tombée du jour, à la manière d'étoiles tombées du ciel, et puis symbolisent aussi la répartition de ces futures graines et de ces graines des rêves de Tijuca qui envahissent l'île maintenant, puisque plus de 50 espèces, les oiseaux sont en train de disséminer les graines des rêves de Tijuca. Je devrais peut-être dire quelque chose sur les rêves de Tijuca, parce que c'est donc un projet dont le titre vient de la forêt de Tijuca, qui est au milieu de Rio de Janeiro, au Brésil, qui est devenu un parc national, et qui a été une histoire très belle de deux amoureux de la nature et des arbres, complètement cinglés d'ailleurs, fin 19e, qui ont ressusciter, on va dire, un petit bout de Mata Atlantica, la forêt primaire des bords de l'Atlantique, de cette zone, à la main, en sauvant Rio aussi, parce que le fait est qu'il y avait des plantations de café qui étaient là et qui n'arrêtaient pas du tout les boues qui coulaient dès qu'il y avait des pluies, les pluies torrentielles classiques des pays tropicaux ou subtropicaux. Et grâce à cette forêt, grâce à cette plantation, donc de centaines d'arbres et d'arbustes, voilà, donc les rêves de Tijuca, c'est rappeler ce projet fin 19e qui a permis de réguler l'eau et les pluies au milieu de Rio. Voilà, et donc aujourd'hui, bah, je suis ravi parce que cette plantation existe. Ça a pu être fait grâce, quand je dis grâce, c'est un peu bizarre, mais suite à la tempête de 99. Et l'idée principale, en plantant une forêt mixte, c'est de modifier le paysage sonore. Puisqu'on sait très bien que dans les monocultures, qui sont malheureusement très nombreuses dans la région, on a un silence, puisqu'on n'a pas peu de biodiversité. Et dès qu'on a de la biodiversité, dès qu'on a de la mixité, eh bien, il y a plus d'oiseaux, il y a plus de... On attire les chevreuils, on attire, pourquoi pas, les biches, les cerfs, les sangliers, et bien d'autres animaux. Et le paysage sonore va en être obligatoirement modifié. Voilà.
Oui, très bien. Tu m'as répondu. La prochaine question que je voulais te demander, c'est ton rapport par rapport à la forêt, la monoculture, la problématique de ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou...
Ben, je vais te parler des flûtes solaires qui sont une œuvre donc qui est aussi sur l'île, qui a été faite plus tard après les rêves de Tijuca et les graines de lumière. Et les flûtes solaires, c'est ou les joueurs de flûte, c'est vraiment une installation sonore dédiée aux arbres, dédiée à la lumière, puisqu'elles s'accrochent dans les arbres, elles dépendent d'eux, et comme elles chantent au fil du soleil, c'est quand les arbres s'éclairent qu'elles peuvent elles aussi, une fois éclairées, se mettre à chanter. Et tout ce rapport, cette installation dont je parle avec les flûtes solaires, Il faut comprendre que c'est venu de ma relation étroite avec la forêt depuis plus de 40 ans, puisque j'ai quitté la cité il y a déjà pas mal de temps pour vivre en moyenne montagne, d'abord dans les Hautes-Alpes et ensuite dans les Hautes-Pyrénées, et aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un quotidien. Je vis en forêt, je vis au milieu des bois et je vis au milieu des ronces.
Ton rapport au son, tu vois, avec les travaux que tu fais, des installations sonores, est-ce que tu fais la musique aussi, ou est-ce que ça a venu cette envie, tu vois, de travailler avec les sons d'animaux, beaucoup, tu travailles oui. beaucoup avec mmh. ça, mmh. et oui.
Eh bien, en fait, je crois que je suis né... En fait, je suis né enfant des bois. Et ça, c'est une théorie que j'ai trois enfants. Hein. Et il y a des enfants qui naissent, ils ont beau naître en ville, eh bien, ils naissent enfant des bois. Et quand tu nais enfant des bois, eh bien, La première chose que tu fais, surtout quand tu as la chance, comme moi, j'avais la chance de pouvoir aller régulièrement en Charente-Maritime, où je suis né d'ailleurs, j'essayais d'attraper des lézards. C'est venu très tôt. C'est la chasse la plus, entre guillemets, originale, au sens originel, puisque tu chasses avec ta main. C'est ta main qui attrape le reptile. Et tu prends tous les risques. Quand tu attrapes avec la main un serpent ou un lézard, il peut se retourner sur toi et te mordre. Donc c'est une chasse très particulière, où il faut beaucoup de patience, où il faut rester très immobile. Et aussi, quand tu chasses un lézard ou un serpent, tes oreilles, l'audition a énormément d'importance, puisque par moment, du fait de la robe, et de la capacité à disparaître de ces animaux, tu les repères aussi au son, quand ils se déplacent. Si tu les perds de vue, si la vision n'est plus capable de te donner d'informations, c'est l'audition qui te donne des informations. Et donc, je me suis, en effet, j'ai été très attentif au son, je pense, grâce à ça. Alors ça, c'est aussi à travers mon histoire avec l'école d'art de Cergy Pontoise, puisque c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de tout ça. Et petit à petit, c'est l'attention à ce qui se passe autour de toi lorsque tu aies les yeux ouverts ou les yeux fermés. Les sons de la forêt te donnent énormément d'informations sur ce qui se passe. Que tu chasses ou que tu fasses de la photo ou que tu fasses autre chose, à partir du moment où tu te déplaces dans un milieu comme ça, le son est une masse d'informations incroyables. Des cris d'alarme qui préviennent de ta présence, justement des sons qui vont te prévenir que tout est redevenu calme et que un oiseau qui chante tout près de toi, c'est qu'il ne te voit plus et qu'il t'a oublié. Et tout ça, c'est des informations très importantes si tu veux te mêler et vivre la forêt d'une certaine façon.
רב שירנו הבוקע לשמיים שובי שובי הורתנו מחודשת שבעתיים שובי שובי ונסוף כי דרכנו אין לסוף כי עוד נמשכת השרשרת כי ליבנו לב אחד מעולם בעד היד כי עוד נמשכת השרשרת
Pour au sens écologique, que je vois que tu es un peu et dedans là, tu vois. Et qu'est-ce que tu peux dire aux gens et par rapport, tu vois, à tout ce qui parle les changements climatiques, et les eaux qui se contaminent peu à peu, tu vois, je sais pas. Parce que je vois que tu travailles beaucoup sur ton art et par rapport à ça. C'est pour ça que tu fais les travaux d'inclure des autres arbres dans une monoculture et de faire qu'évolue l'écosystème, tout ça. Je ne sais pas. Tu peux nous parler un peu de ça?
Alors, il y a beaucoup. Oui, j'ai beaucoup de choses par rapport à ça. Déjà, l'attention, quand on fait attention au son, on s'aperçoit. Qu'il y a toujours des bruits d'avions, qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruits de moteurs de toutes sortes. je suis un ennemi farouche des souffleuses qui servent à repousser les feuilles, à regrouper les feuilles dans les jardins et dans les parcs. On a inventé des outils qui nous font qu'on a des parcs en ville ou dans des endroits dans des villages aussi et dans des petites villes, hein, pas seulement dans les grandes villes, on a des bruits de moteurs continuels. On a réussi à inventer, à remplacer les râteaux, à remplacer les pelles, à remplacer des outils qui étaient plutôt silencieux avec des outils qui font un bruit de dingue. Donc on n'a plus d'espace de calme sans bruit de moteur. Mais ça va jusqu'aux forêts équatoriales et pas loin des forêts primaires où... moi, j'ai eu beaucoup de chance au Cameroun. J'étais en forêt primaire et je réussis à faire 6 heures de bande-son sans un bruit d'avion et sans un bruit de tronçonneuse. J'ai cru que c'était normal et tout d'un coup, j'ai réalisé. C'était les vacances, c'était Noël. Et là, tu dis non. Et au bout de 6 heures d'enregistrement, et c'était la nuit quand même, et au bout de 6 heures d'enregistrement, il y a un petit avion qui est passé. Et que j'ai enregistré d'ailleurs. Et après, j'ai réalisé, j'ai dit, mais non, mais c'est pas que t'es en forêt primaire, c'est que c'est les vacances. Et t'as vraiment eu beaucoup de chance. Oh. Voilà. Et ça, de toute façon, les urbains ont le cerveau qui est continuellement en train de leur mentir de façon à ce qu'ils puissent survivre. Sinon, tu ne peux pas survivre parce que... Donc, c'est très fatigant que ton cerveau soit continuellement en train d'éliminer les bruits de moteur et les bruits parasites pour écouter les autres, pour faire attention à ne pas te faire écraser aussi. Parce que maintenant, entrant dans un vélo électrique en ville, c'est impossible. Donc, maintenant, il faut faire attention et aux trottinettes et aux vélos, et etc., etc. Donc il y a ça, il y a tous ces bruits qui nous fatiguent, et tous nos paysages sonores qui sont entre guillemets pollués par ces bruits de moteur. Donc il est évident qu'aujourd'hui, quand on a la chance de pouvoir échapper à ça, c'est fantastique, on s'en rend même pas compte, quoi. C'est un repos obligatoire.
Alors, parlons de la sonorité de l'île de lac de Vassivière, soit en sens littéral, soit en sens poétique, et aussi, si tu veux parler soit de la texture de l'île ou de l'odeur, mais surtout la sonorité, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu entends, c'est quoi ta perception de la sonorité de l'île ?
J'ai constaté quelque chose avec cette île artificielle, il ne faut pas oublier. Hein. On est sur un lac de 1000 hectares artificiels et on est sur une colline. Et ce qui est intéressant avec cette petite île de 78 hectares à peu près, c'est qu'on est, on est comme sur une vraie île, finalement. Et il y a le bruit de l'eau. C'est l'eau. L'eau est là, pratiquement toujours. Quand il y a beaucoup de vent, on est presque avec un son qu'on pourrait comparer à celui qu'on a au bord de la mer. Il y a même du ressac, il y a le bruit des vagues. Il y a des oiseaux d'eau qui arrivent, puisqu'on peut avoir des cormorans. Donc il y a des sons qui vont rappeler une nature de l'océan ou des grands lacs, comme d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit le petit Canada, comme au Canada ou comme au Québec, hein, quand on est face à des grands lacs où il y a ce type de son. Et c'est passionnant parce que l'île est, comme il y a des vents dominants, bien sûr, même si souvent sur les lacs les vents tournent, on peut quand même, il y a quand même des zones abritées, où tout d'un coup le bruit de l'eau disparaît et où on va faire plus attention aux oiseaux et au côté forestier de l'île. Ce qui est formidable aussi, c'est de vivre, bien sûr, et je ne dois pas être le seul à en parler, c'est de ces craquements de la glace quand le lac est entièrement gelé et que l'île est prise dans un carcan de glace et que la glace se met à craquer en fonction de la chaleur et du froid. Ça, c'est très très beau comme ambiance, puisque ça rappelle encore une fois des zones beaucoup plus nordiques qui finalement ne devraient pas vraiment exister à cet endroit-là. Bon, par rapport au son, il y a plein de choses. Je contrefaire des bandes son justement au milieu des rêves de Tijuca, puisque aujourd'hui le paysage sonore est vraiment modifié grâce aux arbres qui ont grandi. Et ce que je regrette, c'est que ce lac soit autorisé au moteur à explosion et qu'on pourrait très bien avoir que des moteurs électriques. C'est très dommage parce que dès qu'il y a beaucoup de touristes, ce lac est perturbé continuellement par les bruits de moteur.
Tu m'as dit que tu es passionné un peu aussi de la pêche et la chasse. Est-ce que tu as pêché au lac de Vassivière?
Oui, beaucoup. Ouais.
Tu peux nous raconter ton expérience de la pêche au lac.
L'année dernière, je suis venu, il y avait des architectes et il y avait 8 architectes, je crois, qui étaient là en résidence. Et en fait, j'ai pêché 2 brochets, il y en avait beaucoup trop pour moi. Et je leur ai préparé un plat avec des brochets du lac, qui sont excellents d'ailleurs, puisque il n'y a pas beaucoup de vases. Ils sont vraiment très très bons, les brochets du lac. J'ai fait ça, j'avais pas de beurre, alors j'ai fait ça à l'huile d'olive et avec un peu de vin blanc et on s'est régalé. Mon premier souvenir de pêche sur le lac, c'est en 1983 où je passais beaucoup de temps à pêcher aussi, mais j'ai pêché une énorme brème qui est un poisson blanc bourré d'arêtes. Mais comme elle était très grosse, c'est un poisson tout plat, mais qui reste vertical, mais qui est tout plat. Et qui a une particularité incroyable, c'est qu'on le pêche, on appelle ça avec une canne à l'anglaise. Et on pêche avec la pêche à l'anglaise, c'est avec des très très longues plumes très belles, avec des couleurs différentes, très hautes, qui permettent de pêcher justement dans les lacs, très loin ou très proche, avec des grandes profondeurs ou pas. Et donc cette grande plume, quand une brème commence à attraper le ver ou l'asticot, elle remonte d'abord et elle soulève tous les petits plombs qui sont sur notre ligne. Et la plume commence à se lever. C'est très très beau, c'est très magique. On voit la plume qui sort de l'eau. Et là, il y a 20 cm ou 25 cm de la plume qui sort de l'eau comme ça. Et tout d'un coup, la plume va descendre une fois qu'elle est très haute. Elle descend en se déplaçant jusqu'à disparaître. Et là, hop, il faut ferrer et on est pratiquement sûr que c'est une brème. Il n'y a que ce poisson qui fait ça.
הבוקע לשמיים שוב ושוב ορατένου με χουντές έτσι βατάγιμ. Σούβι σούβι βένα σόφκι δαρκένου εν λα σόφκι ότ νημσέχετ ασαρσέρετ. Κιλιβένου λεβεχάλτ με ολάμπα αδέατ κι ότ νημσέχετ ασαρσέρετ. כוחותינו עוד לא תמו שובי שובי אל בנייך אלף דור עלייך קמו שובי שובי ונסוב כי דרכנו אין לסוף כי עוד נמשכת השרשרת כי ליבנו לב אחד מעולם ועדי עד כי עוד נמשכת השרשרת
par rapport à l'avenir avec tes installations au lac de Vassivière, à l'île de Vassivière, qu'est-ce qui sont les projets à venir? Est-ce qu'il y en a ou pas?
Là, non, pour l'instant, non, parce que quand même, ça fait, j'ai quand même réalisé 4 œuvres à demeure, donc maintenant. Et il y en a une dont on n'a pas parlé, qui était une pièce éphémère qui s'appelait Le Lac, qui a été réalisé à l'intérieur de la nef, où j'avais noyé complètement la nef du centre d'art, et c'était un grand miroir d'eau qui reflétait la structure du plafond, qui remettait à l'endroit la coque de bateau du bâtiment. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Le Lac. Donc, cinq réalisations déjà, mais il y en a une que j'ai pas... Dans le projet que j'avais proposé, il y en a une, j'espère bien qu'un jour on la fera. C'est l'idée, c'était de faire une cabane flottante comme les barges de la Loire, donc tout en bois, d'une espèce de bateau très primitif comme au Moyen-Âge, donc en fait une cabane comme au Canada, mais sur l'eau, et qui pourrait être un lieu de résidence pour les artistes du centre d'art. Voilà, c'est le seul projet que j'avais écrit qui n'a pas été réalisé, mais on peut imaginer, même avec un petit poêle à bois, hein, où on peut vraiment vivre. Et ce que j'ai constaté, c'est que très peu d'artistes qui viennent sur l'île utilisent le bateau. Moi, j'ai eu la chance d'habiter de l'autre côté de l'île et de venir travailler sur l'île en bateau. Et ça change tout. Ça change tout. Et je crois que pour avoir une notion de ce milieu, de cette île, il faut pouvoir s'en éloigner avec une embarcation et la voir du lac.
Très bien. Et tu m'avais dit que les flûtes ont été restaurées un peu il y a 12 ans. Et combien de temps il faut restaurer ou pas ou...
Bon, y a, ça c'est l'histoire des successions, des directions. Et on peut le comprendre facilement. Un nouveau directeur n'a pas obligatoirement envie de dépenser tout son argent, qui diminue d'ailleurs chaque année. Si les budgets diminuent chaque année, c'est un peu compliqué de s'occuper de restaurer les œuvres qui sont des projets des anciennes directions. Enfin voilà. Donc ça pose toujours ces questions-là. Donc en fait, c'est qu'elles n'ont pas été restaurées pendant 20 ans. Voilà. Donc évidemment, à un moment donné, tout tombe en panne. Et aujourd'hui, depuis donc ce programme de restauration qu'on a eu là pendant 3 ans, a permis de réparer ce trop long temps où les œuvres disparaissent carrément. Hein. Donc pour les flûtes solaires, c'est juste une attention, et pour les graines de lumière aussi, c'est juste une attention. Je dirais que si tous les ans il y avait juste une journée ou deux de vérification, ça suffirait largement pour que les installations sonores ou lumineuses soient entretenues avec très peu de moyens et très peu de travail. Et ça ne coûterait pas très cher, en fait. Puisque j'ai une technique que j'ai inventée dans les années, fin des années 90 pour accrocher les flûtes solaires dans les arbres ou les graines de lumière ou les lucioles, enfin, ou d'autres projets. Et il est très facile de descendre une flûte en même pas 20 minutes. On peut descendre une flûte d'un arbre, vérifier comment elle va, si elle marche plus. Voilà, après, soit me l'envoyer, soit la réparer soi-même. Enfin, ce sont des objets très simples. On peut en revenir alors à ce moment-là aussi à la musique, et puisque c'était la question à laquelle j'ai pas répondu. Pour moi, les flûtes solaires, c'est pas vraiment de la musique, et j'ai jamais, je crois, vraiment été. Je me sens pas très compositeur en réalité, mais par contre, c'est vrai que je mets en place des protocoles ou des boucles sonores qui vont se glisser dans un paysage sonore, que ça soit avec des sons d'animaux ou des sons de flûte. Alors bien sûr, pour certaines, en musique contemporaine, on peut peut-être parler de musique finalement, mais ça, c'est un point de vue. Moi, je suis plus dans l'idée de peut-être du piège ou de ce son qui va nous attirer, un peu comme le joueur de flûte justement, ou une petite ritournelle. D'ailleurs, j'ai un exemple d'une expérience. Ça, je m'y attendais pas du tout. C'était formidable au Maroc, où j'ai emmené avec moi des flûtes solaires. Et c'était El Jadida, sur les murailles de cette ville ancienne, et où j'ai rencontré des jeunes gens qui faisaient de la musique justement sur la muraille. Et en fait, je ne le savais pas au début, mais ils ont fini par se confier. Ils avaient une initiation soufie. Et j'ai retrouvé cette histoire de ritournelle, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été très intéressés par mes flûtes solaires, parce que une flûte, dès qu'il y a du soleil, se met à émettre une boucle sonore qui va dépendre du soleil. Et quand on parle de boucle musicale, de boucle sonore, eh bien on est dans cette tradition soufie d'une boucle magique qui va nous faire rentrer en transe. Et si en plus c'est le soleil qui la guide, on est complètement dans quelque chose de lié à ces rituels, à ces modes presque chamaniques pour nous faire rentrer en transe. Et donc là, je suis tombé, sans le savoir, sur un maître de musique soufi. Voilà, c'était qui jouait de la flûte. C'était très très intéressant.
Très bien. Et est-ce que on peut inviter aux gens, aux artistes, au lac de Vassivière? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi venir au lac, à l'île de Vassivière? Est-ce que ça vaut la peine?
Oui, ça vaut la peine, bien sûr. Ça vaut la peine, et ça vaut la peine d'y aller au feeling aussi, c'est-à-dire de se perdre sur l'île. On ne peut pas se perdre sur cette île, donc c'est facile de partir à l'aventure et de ne pas suivre les sentiers, quitter les sentiers battus. Il faut quitter les sentiers et se perdre, entre guillemets, sur l'île. C'est là qu'on peut rencontrer des sculptures auxquelles on ne s'attend pas, des ambiances sonores auxquelles on ne s'attend pas aussi. Il y a zéro risque. On retournera toujours sur la berge et il suffira de faire le tour pour retourner à son point de départ. Donc perdez-vous sur l'île. Ouais.
Très bien. Quelque chose que tu veux ajouter, soit sur ton travail, soit sur les sujets qu'on a parlé aujourd'hui?
J'ai rencontré énormément de gens sur cette île. Énormément. Et comme c'est une île, comme sur les îles plus grandes, sous prétexte de l'île, les rencontres sont plus faciles, je crois. Un microcosme sur lequel, en plus, sur l'île, il y a un restaurant, on peut boire du thé, on peut boire une tisane, on peut aller lire un livre, trouver un livre dans la librairie du centre d'art. On peut... Et il y a toujours, justement, des artistes en résidence, des curieux, des touristes, des gens qui viennent avec des vélos, d'autres qui arrivent en bateau. Et voilà, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre. Et ça, rencontrer des gens qui viennent du monde entier... Bah c'est extraordinaire de pouvoir faire ces rencontres sur cette petite île qui n'a d'existence que parce qu'un jour on a décidé de faire un barrage et de créer un lac artificiel.